I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Rose Lamy et on boit un jus pomme framboise. Rose, pour te présenter à nos auditeuristes qui peut-être ne te connaissent pas, on a fait un acrostiche, le célèbre mondialement acrostiche mondialement de Camille connu. Et Justine, que tout le monde attend avec impatience. R comme reconversion, elle a d'abord bossé dans la musique et dans la com avant de lancer son compte Insta Préparez-vous pour la bagarre, suivi par 220 000 personnes qui met en avant le sexisme banalisé dans les médias.
O comme ouvrage, elle en a fait un livre sorti en 2022, Défaire le discours sexiste dans les médias.
S comme son second livre, En bon père de famille, arrive bientôt et risque de secouer encore un bon coup et faire chouiner pas mal de messieurs.
E comme efficace dans sa lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, en plus de son compte Insta et de ses livres, elle a cofondé le collectif Musique MeToo France pour libérer la parole sur les violences sexistes dans le monde de la musique.
C'est Musique MeToo France, j'allais y revenir. Mais...
Parce que j'ai dit Musique MeToo.
Ouais, mais ça va pas t'empêcher. C'est totalement en lien avec MeToo Music, mais il s'appelle Musique Tout France. Collectif Musique Tout France.
Ok.
Et aujourd'hui, il est dissous, j'ai vu ça.
Non, il n'est pas dissous, c'est ce que je vous disais. Comme on a eu une plainte en diffamation, ça nous a forcé à faire un peu profil bas le temps que le jugement soit rendu. Et comme on a été relaxé, ben on va reprendre du service, mais ce n'est pas du tout dissous.
C'était... Ah, donc, parce que dans les médias, justement, là, si tu cherches Collectif Musique Tout, t'as un peu l'info de « il n'existe plus », genre, ça y est.
Bah non, il existe encore. Puis de toute façon, il se passe encore plein de trucs en souterrain, pas encore médiatisés, il y a des enquêtes en cours. Mais non, il n'est pas dissous, mais ça nous a mis, ça nous a calmés. Puis de toute façon, c'est le principe de ces procédures, Bayon. Voilà, nous, on est un collectif bénévole. Il y a des gens qui sont encore dans la filière, qui sont anonymes, donc il fallait qu'on calme le jeu pour... c'est... Le cofondateur Jean-Michel qui a pris la balle pour nous tous et nous toutes. Mais du coup, il fallait faire profil bas, ouais.
Et toi, t'as cofondé ça, tu n'étais déjà plus dans le milieu de la musique à ce moment-là et c'est justement parce que t'étais entre guillemets devenue militante sur les réseaux, tu t'es dit c'est un bon pont entre les deux ou...
Oui, j'étais déjà plus dans la musique quand on a décidé de le faire. Moi après j'ai une anecdote perso qui m'a poussée à le faire, c'est que quand j'ai monté Préparez-vous pour la bagarre, j'avais un souvenir d'un truc sexiste auquel j'avais assisté dans la musique et que j'avais pas dénoncé. Enfin, je l'avais dénoncé puis après j'avais abandonné parce que j'avais peur pour ma carrière ou peur pour la carrière de mes artistes. Et là, forte de la page, je me suis dit, vas-y, je vais voir où il en est, le gars. Et il continuait. En fait, il faisait du upskirting, des photos sous les jupes sous les tables des trains.
Mais quoi ?
Il a un album, il se reconnaîtra, je pense, qui s'appelle La fille du train. Et c'est un album photo sur Facebook avec que des photos prises à l'insu de femmes. Il y a des commentaires grossophobes, racistes. Oh. Et il sexualisait les femmes. Il y en avait une vraiment... qui était trash. Et à l'époque, on avait dénoncé et ça s'était retourné contre moi. J'avais été traitée de... Alors non, pas encore à l'époque. Il avait juste dit... il avait juste fait son laïus liberté d'expression artistique et tout, alors que
c'est très artistique,
vraiment pas de là. Et j'avais mis ça de côté parce qu'il y a un festival qui arrivait, des échéances pro et tout. Et puis je sais pas si c'est ressorti un soir. Vraiment forte de la paix, je me suis dit, bon, faut que je le fasse parce que ça m'énerve que ce soit encore en ligne. Et là, je l'ai fait, j'en ai parlé dans un groupe de pros de la musique, de femmes pros de la musique, et ça s'est super mal passé. En fait, au début, il y a eu une émulation, il y a plein de gens qui ont commenté. Il y a des filles qui ont dit « Ah, mais j'aurais tellement de choses à dire, tellement de trucs à balancer. » Et en fait, les admins du groupe ont eu peur, elles ont supprimé mon poste. Oh. Et avant ça, il y avait des captures qui avaient été faites et qui avaient été envoyées aux mecs. Donc en fait, j'ai vraiment vécu le backlash local, tu vois. Quand tu parles, ouais. C'est toi qui deviens... le bourreau qui devient la mal baisée et tout ça. Enfin, je l'ai vécu très concrètement. Après, c'était pas pris une ampleur folle non plus. Mais Et donc après ça, on a beaucoup parlé avec des copains et des copines en se disant, mais en fait, si même pour un truc, entre guillemets, aussi léger, qui ne me concerne pas personnellement, le retour de bâton est aussi violent, comment les meufs pourraient parler de mecs plus puissants de l'industrie et de crimes ou de délits plus graves? Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir à une manière de faire.
Vous lancez le hashtag MusiqueToo, il y a évidemment des tonnes de témoignages. Parce qu'en fait, comme dans tous les milieux, il y a du sexisme et des agressions, du coup, forcément.
Parce que du coup, le concept de ce collectif MusiqueToo France, c'est de recueillir des témoignages de personnes qui auraient été victimes de gens de l'industrie de la musique.
Il y a deux trucs à dire sur notre méthode, c'est qu'on n'a pas fait de compte anonyme en disant un tel a fait ça un jour en label, parce que. Moi, j'ai l'intuition que ça, c'est plus anxiogène, que ça résout de problèmes. En fait, je me dis, si j'avais eu 20 ans, que j'étais arrivée sur une page MusiqueToo et que j'avais vu toute cette violence affichée, peut-être que ça m'aurait baissé la barre encore plus bas en me disant, bah, de toute façon, c'est le secteur qui veut ça. Enfin, y a
ça comme peut une fatalité.
Une sorte de normalisation, finalement, de la super violence. Et donc, on voulait éviter ça. Et on a fait un truc nouveau qui, pour l'instant... passe le test légal, on verra ce que ça donne. Non, mais en fait, on a agrégé des témoignages sur un formulaire. Donc ça, je vous le dis, c'est illégal. C'est la CNIL, hein, c'est pas non plus pénal ou quoi que ce soit, mais on n'a pas le droit de le faire. Mais nous, on a pris le risque de désobéir et de le faire. On a fait disparaître le document après coup. Mais on a eu presque 300 témoignages. Et on disait aux victimes de pas forcément, elles, se nommer, mais de nommer toujours l'agresseur. Et du coup, comme ça, on a pu recouper des témoignages par 10, par 8, par 5.
Qui concernaient le même
agresseur. Et ça, on l'a envoyé à des médias comme source, en disant à Mediapart, Néon, Libé, regardez, il y a quand même 10 témoignages sur la même personne à Strasbourg, on peut le citer. Et donc, ça a donné des enquêtes, après des ouvertures de procédures judiciaires. Il y a eu pas mal de trucs en sous-marin aussi, de gens qui ont pris leur retraite un peu plus tôt que prévu.
Oui, donc il y a changé des conséquences.
Ouais, il y a eu des conséquences, vraiment.
Vous avez acté sur des choses qui sont pas forcément tombées dans l'oreille du grand public.
Ouais, pas forcément. Et ça me va comme ça parce que c'est pas forcément très visible, mais ça, je pense, un peu assaini à notre échelle et en toute humilité. Et il reste beaucoup de choses à faire. Mais il y a cette épée de Damoclès quand même qu'ils ont au-dessus de la tête qui me plaît pas mal.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est quoi qu'on préfère? C'est qu'ils se chient un peu dessus, les mecs comme ça, ou que tout le monde soit au courant? Moi, je suis un peu partagée parfois. J'aime bien l'idée que... Mais c'est quand que tout le monde sera enfin au courant de cette histoire?
Mais tout le monde est au courant. En fait, maintenant, j'aime autant... Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on baigne dans un milieu. C'est quand même compliqué aujourd'hui, en 2023. Des gens qui tiendraient le discours de dire non, mais les agressions sexuelles, ça doit être une minorité de choses qui se passent. Non, les gens sont au courant, et particulièrement dans les milieux artistiques, d'ailleurs, où les gens, ce que tu disais un peu tout à l'heure sur le côté, je disais le côté fatalité, de se dire, si tu rentres dans le milieu artistique, tu te doutes bien que tu vas te heurter à des pressions sexuelles, etc. Donc, c'est compliqué d'être... une personne de bonne foi et de dire non, je pense encore que
non,
c'est...
Non, alors de bonne foi, marginal. Non, mais je pense que le tout public, entre guillemets, ils sont quand même très... Enfin, ils tombent des nus à chaque fois qu'ils entendent un artiste, ou alors ils qualifient la plainte de menteuse.
Oui, enfin, mais quand ça va être un individu spécifique, parce qu'ils vont pas avoir envie de mettre cet individu spécifique dans la sauce, ou de se dire, ah putain, c'est ce mec-là que pourtant j'aimais bien, mais globalement, ils vont se dire, oui, c'est un milieu un peu pourri. Mais effectivement, même quand c'est Depardieu, il y en a qui vont réussir à dire, ah, quand même, mais non...
En fait, nous, on a... plutôt axé au départ sur l'industrie, sur des gens qui sont pas forcément très connus du grand public.
Après, il y a des producteurs,
il y a des postes à responsabilité de maisons de disques ou de festivals que tout le monde connaît, mais c'est pas des personnages médiatiques en dehors de la filière. Après, on a des artistes, mais c'est là que c'est intéressant, entre guillemets, c'est que on parle d'intersection des oppressions, mais qu'on le voit dans les faits quand on essaye de viser quelqu'un de connu, de blanc, qui a du pouvoir et qui a un certain âge, on n'arrive pas parce que les victimes sont terrifiées de parler finalement aux journalistes, même si elles nous ont donné une source d'information. Et en fait, ça va plus vite pour des petits labels, des labels régionaux, et aussi, dès que les personnes sont racisées, ce qui est parti en premier, et c'était pas du tout notre initiative, c'est un autre média, c'était Street Press, qui est parti aussi sur le secteur du rap, et c'est ça qui part en premier.
Bah oui.
Vraiment, les grosses têtes d'affiche artistiques, enfin les artistes des musiques actuelles qu'on pourrait, sur lesquelles on pourrait avoir des infos, sont pas encore tombés.
C'est un truc que je me souviens, on en avait déjà parlé quand on s'était rencontrés à une autre occasion, on avait parlé déjà un peu de ça, et ça m'a pas surpris parce que dans ma façon de penser, ça, finalement c'était logique, mais ça m'a vachement marqué ce que tu nous avais dit de, en fait, les personnes finalement qu'on arrive entre guillemets à faire tomber, les premiers agresseurs qui vont tomber, ce sera ceux qui seront racisés.
Ouais.
Et du coup, on arrive vraiment à effectivement une intersection des dans l'autre sens, pas de victimes mais d'agresseurs. C'est-à-dire que t'es un agresseur racisé, là tu vas tomber. Par contre, t'es un agresseur et t'es blanc et c'est beaucoup plus dur de de t'envoyer. Et tout à l'heure, pour la petite anecdote, juste avant le podcast d'enregistrer, on buvait un café et on reparlait de l'acteur de 7 à la maison, le père, le révérend Camden, qui en fait a été reconnu coupable. Enfin, il a même avoué de son propre aveu qu'il était pédocriminel. Et aujourd'hui, bah, il est toujours en liberté à peu près, bon, même s'il a peut-être une mauvaise réputation, si je puis dire. Alors que Bill Cosby, qui aussi, lui, a été reconnu coupable de multiples agressions, il est en prison, du coup, ou il a fait de la prison, en tout cas.
Oui, mais de toute façon, ça, même statistiquement, c'est des chiffres que les fachos vont utiliser, mais il y a une surreprésentation des classes populaires et des hommes racisés en prison. Et c'est pas parce qu'ils sont, de manière essentialiste, ils sont plus délinquants ou criminels, c'est exactement ce qu'on a pu vérifier avec Musique Tout, même si tu le sais théoriquement, de le voir que tu peux pas accéder... mais ça commence aux témoignages, ça commence aux victimes, ça commence aux collègues qui ne veulent pas, parce que forcément, ils ont tout à perdre. C'est des systèmes qui sont organisés autour d'eux, et tous les éléments perturbateurs vont dégager. Donc voilà, c'est même pas d'avoir conscience de la classe ou de la race, c'est... ils ont tellement de pouvoir que déjà au niveau de la dénonciation ça marche pas. Et puis après ils ont plus de moyens pour avoir des avocats, pour disqualifier les accusés, enfin les accusatrices et tout. Donc c'est toute une chaîne et c'est marrant, enfin entre grands guillemets marrant, de le voir en action.
Ouais.
Parce que ça rend vraiment impuissant.
Pour avoir vraiment subi un backlash là nous deux dernièrement sur les réseaux sociaux, et il y a plein de fachos qui ont fait des vidéos sur nous pour discréditer notre discours, etc. Et du coup ouais, ils sont sur la même info qu'ils adorent donner, c'est bah, regardez les statistiques en prison, hein. Enfin, les délinquants, effectivement, ils sont pas blancs, mais c'est fou de pas réfléchir vraiment plus loin que ça et de questionner comment ça se fait, plutôt que de se dire bah donc voilà, enfin, vous voyez, bah du coup c'est forcément les noirs et les arabes qui
agressent. Ils sont feignants, moi c'est bon, au bout d'un moment, moi mon argument ultime c'est ils sont feignants. Et il y a un peu les mecs, et ces mecs là, les mecs blancs, ils ont vraiment l'impression qu'on les insulte quand on dit que ce sont des mecs cis hétéro blanc,
comme Elon Musk là,
comme si ça c'est, voilà,
six, c'était une insulte maintenant.
Enfin, tu sais, voilà,
on a plus le droit de dire 6 sur Twitter.
Et non, en fait, il faudrait qu'ils se rendent compte que si ce mot a une, enfin c'est descriptif, parce qu'en fait ce sont juste des descriptifs, ont une importance, c'est parce qu'ils ont des impacts sur la vie des gens. C'est-à-dire que si tu es un homme blanc cisgenre hétéro, de fait, tu vas être moins susceptible de tomber si t'es un agresseur. Enfin,
bah
c'est
oui, t'es
prouvé,
moins contrôlé, il y a moins d'enquêtes, la crédibilité des victimes, elle est inversement proportionnelle à qui elle accuse. Enfin, c'est toujours.
Mais je crois que c'est parce qu'ils veulent pas être catégorisés. En fait, ils ont tellement eu l'impression d'être le neutre. On leur a appris, hein, on les a fait grandir dans être le neutre et être l'universel. Et à côté, il y avait les femmes, il y avait les minorités, les gens handicapés, les gens gros, les gens. Homosexuels, enfin il y avait ces gens-là, ou les gens racisés justement, et eux ils étaient le général. Et d'un coup on dit mais non, vous aussi vous êtes une catégorie de gens en fait, et vous êtes une catégorie de gens avec aussi des attitudes envers vous parce que vous êtes de cette catégorie-là.
Après moi on va trouver que je suis conspirationniste, hein, mais je pense même que c'est une... enfin je pense pas d'ailleurs, ça a été théorisé par plein de féministes musulmanes qui parlent du fémonationalisme, et donc c'est une stratégie. Le fémonationalisme, okay. C'est l'instrumentalisation du féminisme pour être, à des fins racistes et islamophobes, en particulier en France. Il y a des livres qui sont sortis. Il y a Sarah Faris, Au nom des femmes, j'espère que j'écorche pas. Bref, il y en a plein. Il y a un nouveau qui vient de sortir, c'est Les féministes musulmanes sont-elles des femmes ? Et donc, c'est même pas qu'ils seraient naïvement en train de dire c'est eux, c'est pas nous. C'est qu'il y a un vrai projet derrière. Parce que si tu arrives à instrumentaliser le féminisme et à en faire quelque chose qui te permet d'appliquer tes lois anti-immigration, ben voilà, c'est gagné. Et ça, Marine Le Pen, elle a commencé à le faire. C'est aussi théorisé. La première sortie fémonationaliste daterait de 2010. C'est la première avant MeToo qui a mélangé le genre à l'immigration. Et c'est quelque chose qui parle aux Français, malheureusement. quand on fait des sondages, ils associent beaucoup criminalité, délinquance à immigration. Et dans criminalité, délinquance, ben, logiquement, tu as les violences sexuelles. Ouais. Et donc, c'est une manière pratique de résoudre le problème, parce que ça fait en sorte de ne pas regarder ce qui se passe dans nos familles et dans nos amis, en se disant, bah, c'est pas nous, c'est les autres. Et donc, au-delà d'une vraie naïveté sur ce qu'ils sont, je pense, ce groupe... d'hommes blancs privilégiés avec tous les qualificatifs qu'on peut leur demander. Il y a aussi un peu de vice de se dire faisons diversion.
Bah oui. Bah on connaît le collectif Némésis qui est un collectif de féministes. Je mets des guillemets, vous me voyez pas parce que ils sont très très gros. Féministes identitaires, c'est comme ça qu'elles se revendiquent. Elles revendiquent un féminisme raciste.
Du coup, c'est le fémonationalisme dans toute sa splendeur. Mais ce n'est pas que l'extrême droite, c'est en train de, enfin c'est dans les discours de droite et c'est un peu dans les discours généraux sur les violences, sur tout ce que Schiappa avait fait sur le harcèlement de rue. Il y avait en sous-texte l'idée que de toute façon c'était que des hommes racisés dans l'espace public qui harcelaient les femmes.
Ouais, bah oui.
Donc voilà, il y a plein de croyances comme ça.
Mais qui vous sont avez déjà essayé, puisque je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Justine, de ces mecs-là qui nous disent vous avez bien vu, qui vous agresse, c'est pas les blancs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans un débat, ou dans une discussion, de dire à la personne qui pense ça, en fait, les hommes racisés, ça y est, maintenant la stat existe, elle a été trouvée, ils sont contrôlés 20 fois plus, au faciès, les hommes noirs et arabes sont 20 fois plus contrôlés. Donc forcément, s'il y a plus de contrôle, il y a plus de chances d'être arrêté de manière statistique. Je me demande qu'est-ce qui répondrait à ça. Ça les intéresse pas, cette stat, c'est quoi?
Et même, qu'est-ce qu'ils répondent à chaque fois quand on leur donne la liste des derniers hommes tombés pour violence qui sont blancs?
Toute la fraude fiscale qui est faite par tous les policiers.
Oui, mais même les violences sexuelles, quand tu leur lâches un PPDA qui est accusé par 80 femmes.
Moi, je pense qu'ils sont dans l'idéologie, donc tu pourras dire tous les chiffres que tu veux. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On est vachement sur les chiffres et les stats.
Contrairement
et ça change rien. Parce qu'eux, ils sont dans l'idéologie de quelque chose de plus grand, de se protéger, de continuer à garder le système. Donc, tu peux leur dire, mais...
En fait, ça me fait penser parce que ce week-end, j'étais dans un bar avec des potes et on parlait de sujets un peu comme ça. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il faudrait presque jouer avec les mêmes armes. Parce que là, on vient de dire que nous, souvent, on sortait des chiffres, des stats, des trucs, des études un peu prouvées. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les débats sont compliqués parce qu'on a envie d'être dans le juste, d'être dans le vrai et d'être dans la preuve, dans la théorie. Et eux, ils balancent juste un peu des conneries.
C'est ce qui fait qu'on y passe beaucoup plus de temps qu'eux.
Voilà. Et j'ai vraiment un pote qui a dit, mais en fait, on n'a qu'à juste faire la même chose. On devrait dire, nous aussi, utiliser le discours de mais tous les Français savent que les hommes sont violents. Tous les Français le savent tous les Français déplorent le fait que les hommes blancs sont violents. Enfin, tu sais, d'utiliser les mêmes armes en disant tout le monde le sait. Là, tous les gens qui nous écoutent sont d'accord avec moi parce que eux, ils utilisent tout le temps ça en fait.
Tous
les Français savent bien que. Mais non.
Après 4 ans de pédagogie sourcée, chiffrée, le premier livre que j'ai fait. Défaire le discours sexiste dans les médias, j'ai presque 1000 notes de bas de page, j'ai bétonné tout ce que j'ai dit avec 45 arguments et j'exagère à peine. Ce qui fait que il y a des gens qui ont dit il n'y a pas de thèse sur le sujet, donc c'est peut-être le document qui s'en rapprocherait le plus et tout. Après avoir fait tout ça et vu la manière dont la résistance continue, j'avoue que pour le prochain, j'ai un peu fait ça.
Ah.
Il est sourcé et voilà, mais c'est aussi, j'ai l'impression, c'est un peu, je pense ça. Voilà, et sans prendre 1000 pincettes.
Ouais, puis je trouve qu'il est temps aussi. Mais ouais, puis même aussi pour qu'on change le discours entendu, parce que là, si on écoute les médias et tout, on a l'impression que tous les Français ont peur des Arabes. Tous les Français sont, du coup, islamophobes. Tous les Français sont contre la migration. Enfin, je trouve qu'on devrait aussi beaucoup plus généraliser en disant tous les Français sont pour sauver, accueillir les migrants. Tous les Français sont pour, dire tout le monde pense bien comme nous, tout le monde est féministe, tout le monde a.
Il y a un truc intéressant qui a été testé en Allemagne. Là, il y a une étude qui est sortie, je ne vais pas me rappeler du nom, sur le rapport délinquance, criminalité et immigration. Dans l'étude, ils ont parlé de ce qu'avait fait un journal allemand. Donc en Allemagne, c'était comme en France, on ne devait pas donner les nationalités ou les origines des personnes délinquantes. Et puis il y a un journal qui s'est dit, mais si on va le faire, parce que petite désobéissance civile. Et ils le font, et ils se sont rendus compte qu'en donnant les nationalités, les origines, les gens ont vu que c'était beaucoup des Allemands, finalement, et que ça a changé le rapport d'inquiétude où les gens n'ont plus eu peur de l'immigration, mais ont eu peur de la délinquance en général. Et donc, c'est un move intéressant parce qu'en France, on n'a pas le droit de le faire. Ça part d'une bonne intention universaliste de on ne voit pas les couleurs et tout. Mais c'est aussi dans ce flou que se logent les idées racistes et que c'est, voilà, peut-être que si on les donnait, ça remettrait le truc.
Le débat sur le terme justement racisé qui régulièrement refait débat. Nous, par exemple, sous nos commentaires récemment, j'ai revu ça de quelqu'un qui dit on ne doit pas dire racisé parce qu'il n'y a pas de race, parce que nous sommes tous des êtres humains, bordel. Ça ne résout aucun problème. Ne pas vouloir faire de statistiques ethniques. Je sais, on sait d'où ça vient. Enfin, évidemment, on a une histoire en plus très compliquée sur l'idée de d'épingler, par exemple, une étoile sur des gens pour dire de quelle religion ils seraient. Oui, c'est problématique, sauf qu'en fait, aujourd'hui, se cache derrière ça et se loge derrière ça des fins infiniment racistes. Donc, non, on a un terme racisé parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, les blancs ne sont pas traités de la même manière que les personnes qui ne sont pas blanches. C'est un fait. Prouvé, reprouvé des tonnes de fois. Après, si toi t'es malheureux parce que ton père gagnait pas beaucoup d'argent, alors qu'il est blanc, bon.
Ça enlève rien. Enfin, ça empêche pas la classe.
Bien sûr. Alors,
mais après, c'est vrai qu'on la pense pas forcément toujours dans les milieux militants, mais ça n'enlève rien à la classe. Ton père était malheureux par sa classe, mais à classe égale, il était plus heureux que ta mère. Je suis vraiment bien désolée, mais c'est le cas.
Et du coup, ton prochain livre, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Je commençais à vous en dire plus. C'est vraiment plus libre que le premier, quoi. J'ai essayé de... je vous fais le petit historique. C'est la première fois que j'en parle.
Je rappelle le titre, c'est...
Un bon père de famille, ouais.
Très bien,
parce
j'adore.
Je l'ai eu tout de suite, le titre, mais je vais vous dire pourquoi. J'ai déménagé en Belgique et j'ai signé un bail et je me suis engagée à jouir de mon bien en bon père de famille.
Officiellement. Bon.
Et en fait, un an avant la sortie du premier livre, ça a été l'occasion de la révélation d'un secret de famille personnel, que mon père était violent avec ma mère. Et moi, j'en savais rien parce que j'étais petite, il est mort quand j'avais 4 ans. Et ça m'a évidemment fait un choc, hein, parce que ça a expliqué quand même pas mal de choses, même si on n'a pas de souvenirs à ces âges-là, on a une mémoire en tout cas. Et je me suis dit, c'est pas par hasard que tu fais ce métier. Et donc j'étais en train de digérer toutes ces infos, j'en parlais à la famille, j'essayais de voir exactement quelle était la situation, donc c'était une petite enquête. Et sans ça, je signe un bail en m'engageant à jouir de mon bien en bon père de famille. Et
c'est écrit sur le bail, tu veux dire ?
C'est écrit sur le bail. Et l'agent immobilier m'a dit ça va pas vous plaire ça. Je fais mais ça évidemment ça me plaît pas. Donc je commençais à chercher des trucs là-dessus. En France, ça a été retiré en 2014, mais ça a été remplacé par raisonnable et raisonnablement. Et je me dis mais c'est pas possible en fait d'avoir d'un côté une réalité statistique, 45 interventions de la police par heure en France pour violence intrafamiliale, première cause de déplacement du GIGN. Violence intrafamiliale. On connaît les statistiques, 91% des viols sont commis par un proche dans la cellule familiale. On connaît les chiffres sur l'inceste. Comment on peut d'un côté...
Et 98% des auteurs sont des hommes.
Oui, c'est voilà. Mais là c'est plus tout. Sur le côté père de famille, cellule familiale.
Oui, mais pour dire qu'il y a des gens là qui pourraient écouter et dire mais ça se peut, ça vient de la mère. Sauf que
non.
On n'oublie pas que de toute façon...
Alors, il y a des violences féminines.
Oui,
voilà.
Mais en l'occurrence, la majorité sont faites par les hommes. Donc, c'est pour ça que c'est important.
Donc, comment tu peux avoir d'un côté statistiquement toutes ces connaissances et utiliser la figure du père de famille comme la référence du neutre universel? Et en fait, c'est même un personnage de droit fictif à laquelle on va... mesurer tous les comportements des gens pour savoir s'ils sont fautifs. Moi, ça m'a fait péter un plomb, quoi.
Et donc j'ai passé un an et demi dessus. Du raisonnable, quoi.
Voilà.
Le père de famille, la référence du raisonnable.
Le rationnel, le neutre, la figure autour de qui tout s'organise et autour de qui les lois sont faites, alors qu'en fait, on est en train de mettre à jour que le patriarcat, ça commence dans la cellule familiale et c'est peut-être un truc qu'on n'a pas encore assez dit parce que MeToo, c'est vraiment parti sur les violences. Sexuelle, donc c'est aller jusqu'aux coulisses, mais on n'est peut-être pas retourné assez dans la cellule familiale, donc ça commence ici, et le paradoxe était fou. Et donc j'ai voulu interroger ça, mais après, c'est pas un essai non plus sur les violences intrafamiliales, parce que c'est vraiment mon avis, quoi.
Et ton avis, ressenti
sur ce que, en fait, je fais un groupe d'hommes que j'appelle les bons pères de famille, parce que je trouve qu'ils passent leur temps à nous définir, tu vois, wokistes, transgenres, j'ai encore eu ça récemment. Islam ou gauchisme, machin, et nous on a du mal à les nommer parce que tu vois, on perd des gens en disant homme cis, blanc, hétérosexuel, valide, machin, Et là, c'est la question de l'accessibilité. Je trouvais qu'il fallait leur trouver un joli nom.
Oui,
et
plus,
que
plus
bon
simple,
père
plus...
de famille, je trouve que ça se pose pas mal. Donc, pour être un bon père de famille, pas besoin d'être un père de famille, pas besoin d'avoir des enfants. On peut être juste un homme célibataire et être un bon père de famille. On peut être une femme et avoir un discours de bon père de famille.
C'est un concept.
Je sais pas, c'est quoi le lien entre... on va faire avec l'actu... Nicolas Bedos, Bec Bédé, le commentateur Twitter, son oncle sur Facebook, le copain qui dit...
Le gars qui a tué sa femme en disant « Elle avait disparu, elle nous a tous abandonnés, hein.
Voilà.
En fait c'est moi qui l'ai tué, oups !»
Le pote qui dit « Non, mais tu te trompes, il n'est pas comme ça. » Enfin, ils sont quand même tous en lien de quelque chose et j'ai voulu me demander ce que c'était ce lien. Et je les appelle comme ça maintenant.
Les bons pères de famille. Il va y avoir un hashtag « bons pères de famille » pour pouvoir
j'espère.
Les...
Souvent, il y a des gens qui sont là « Ouais, les pédophiles, les violeurs, faut les pendre par les couilles, faut qu'ils crèvent, faut remettre la peine de mort. » Mais en fait... Il faut aussi être prêt, si on tient ce discours-là, à se dire que les pédophiles, les violeurs, c'est ton frère, ton meilleur pote, ton ami d'enfance, ton cousin, ton père.
Ben, c'est statistiquement le cas.
Et ça, ça c'est pas quelque chose que nous, on invente de toute façon.
Pour vous faire de la peine, genre « Oh, bah peut-être c'est ton frère !»
Mais de toute façon, même Nordal Lelandais, c'est le frère de quelqu'un.
Oui, voilà.
Enfin, peut-être il est fils unique, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le père de quelqu'un, c'est le mari, c'est l'enfant de quelqu'un, en fait, je veux dire. Donc,
c'est quelqu'un.
Donc de toute façon, c'est toujours, même si c'est un autre, même s'il est noir ou racisé, ce qui pour les fachos est absolument important, c'est quand même les enfants et les frères, les potes de quelqu'un. Donc il y en a dans les vôtres de potes. De toute façon, il y en a dans vos entourages. Statistiquement, c'est 25% des femmes. Si 25% des femmes sont violées au cours de leur vie, et là on prend juste le viol sans compter les autres types d'agressions sexuelles, si 25% des femmes sont victimes, vous pensez bien que 25% des hommes sont probablement coupables. Donc dans vos amis, enfin je veux dire la stat est là, c'est 1 sur 4, tu vois, il y a un moment où enfin ça c'est pas une stat officielle 1 sur 4 homme et un violeur hein, c'est moi qui
Oui parce que
qui projette
clair,
mais
parce que Caroline Duhas elle avait dit un truc comme ça.
Oui, c'est vrai. Et non, et d'ailleurs c'était oui j'avais vu ce mais
Et Bessner avait dit qu'elle méritait de se faire gifler d'ailleurs.
Bah voilà.
On a aussi les menaces de violence physique sur les féministes.
Oui, bah oui. On apprécie le fait qu'en fait, il prouve qu'elle a raison du coup en disant ça.
Bah oui, parce que lui il se dit ben en fait voilà, c'est toujours la dissociation discours, alors, en face à tout le monde est antisexiste et tout le monde veut lutter contre les féminicides et contre les violences faites aux femmes. Et lui, il commence même sa phrase par ça. Je suis un féministe, machin. Mais, alors là, t'as le mec arrive, elle mériterait des gifles. Alors tu dis, bah, je comprends pas. Tu vois, il y a un discours qui est incohérent, que je comprends pas. Et j'ai voulu essayer de comprendre ça aussi. C'est vachement parti de l'affaire Quatennens aussi, où il écrit noir sur blanc qu'il a giflé, qu'il lui a pris son téléphone et tout.
Mais comme il le
et
dit.
Et après, il dit la phrase d'en dessous, je ne suis pas un homme violent. Ben, qu'est-ce que vous êtes alors Quelle inconscience de vous
mais
avez
parce que comme il le dit, alors que la majorité ils le disent pas, qu'ils sont violents, peut-être que comme il le dit, il est exempté de. Et d'ailleurs tous les commentaires sous le post, enfin une grande partie c'est ah bah voilà, il l'assume, bah ça c'est un bon gars.
Non mais il y a presque une dissociation, tu vois, de qui ils sont. Ils peuvent pas se penser en homme violent parce que ils sont construits. Mais ça c'est ma théorie fumeuse ou pas, vous me direz dans le livre.
Oh, a priori on sera d'accord, je pense.
C'est toujours, et ça c'était Valérie Rey-Robert qui l'avait dit dans Une culture du viol à la française, c'était un peu son plan le violeur c'est les autres ou le violeur c'est l'autre. Les hommes violents, ce n'est jamais les bons pères de famille. C'est le monstre, le fou, l'étranger, le rôdeur dans le parking, tout ce qu'on peut imaginer sauf eux. Voilà, dans l'histoire qu'ils écrivent, ils ne sont jamais violents. Et c'est pour ça que Quatennens, il peut dire dans son raisonnement, il est cohérent dans sa tête, j'ai été violent mais je ne suis pas un homme violent.
Ça veut dire que définit pas.
Ça ne le définit pas, il l'a fait. Mais il n'est pas. Et moi, ça m'intéresse de comprendre cette logique qui n'en est pas, qui n'est pas logique.
Bah comme les mecs qui ont violé des femmes, mais qui l'ont fait dans un contexte où ils ont peut-être eu l'impression qu'en fait elle était un peu d'accord ou que eux aussi ils étaient très très bourrés et que peut-être quand le lendemain elle a dit qu'en fait non, ils se considèrent pas comme des violeurs parce qu'ils peuvent presque même reconnaître, ok, en fait cette fois-là peut-être effectivement elle était pas d'accord mais je ne suis pas pour autant un violeur puisque tout le reste du temps j'ai pas refait ça. Enfin,
mais ils nous sortent ça pour les féminicides aussi, donc pour les féminicides aussi, c'est des accidents, mais ça ne les définit en
ça
rien.
A dérapé.
Bah, excusez-moi, ça vous définit bien quand même, criminel quoi.
Oui.
Voilà, c'est pas une fatalité, on peut se réhabiliter, y a pas de souci. Mais dire qu'on n'est pas un homme violent quand on a frappé sa femme ou qu'on l'a giflé, et puis il y avait tout un discours de légitimation des gifles aussi qui est sorti, genre oui mais bon c'est Manuel Bompard qui disait oui mais bon une gifle c'est pas comme battre sa femme tous les jours.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Genre, mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, vraiment, c'est quoi ce référentiel? Je comprends rien. En fait, vous admettez
il y a un
que
tableau des peut... violences.
Ouais,
ou
mais
la
il
chute,
nous échappe.
C'est bon, mais le coup de poing, non?
Voilà, bah, donnez-moi
attends, une
la référence.
Ou 10, ouais. Du coup,
bah, oui, oui, grave.
Il faut nous écrire le référentiel des ouais. bons pères de ouais. famille pour qu'on sache à quoi bah, s'attendre.
Et
parce que moi, je le comprends
gifle,
pas.
Du coup, c'est genre, voilà. C'est parce que du coup, entre ouais. la petite tape et l'énorme gifle qui met une marque rouge, enfin, c'est.
Et les coups de poing et les coups de pied. Alors, c'est dans quelle catégorie? Est-ce que ça, ça se dénonce ou pas? Ou est-ce que c'est des dérapages ou ça, c'est des vraies violences? Enfin, donc ils écrivent complètement bah, tout
à leur arrangement, enfin
tout
sens,
le, ouais, le récit de ce qu'ils ont envie de dire sur les violences ouais. et puis voilà c'est décidé
et puis comme c'est eux le neutre ça devient le référentiel
oui, voilà, voilà, du coup nous on dit ah d'accord c'est,
ils
c'est
sont
bon,
juges
c'est
et partis ils décident de ça et nous ben bah, on doit avaler ouais. des couleuvres comme ben bah, il y a des gifles acceptables ben bah, on dit non de toute façon ces idées de gifles acceptables là il y a des tonnes de mythes comme ça genre séparer l'homme de l'artiste moi j'en parle beaucoup d'où ça sort. D'où ça sort? Enfin, vraiment, ils donnent l'apparence d'être des philosophes hyper rationnels, mais quand tu poses le truc à plat, ça n'a aucun sens.
Oui, c'est vrai
logique.
Que c'est, ça a été présenté comme une philosophie ultra
comme la base.
Approfondie. Non, mais c'est vrai, ce truc de séparer l'homme
ça
de l'artiste.
Mais c'est absurde,
pourquoi, au fait.
Mais oui, moi, je me suis fait avoir. Hein. Moi, j'étais dans la musique quand il est revenu et j'avais dû bredouiller. Je sais pas, on est sûr. J'étais pas du tout affirmée sur ces questions-là. Hein. Et on avait dû me dire, ouais, mais il faut séparer l'homme de l'artiste. Je fais, ah, ouais, bien sûr. l'argument d'autorité, tu
oui,
vois.
Comme
et
la puis... base, l'évidence, c'était de séparer. Et ensuite, on a questionné
après,
en disant,
fait...
peut-être qu'il ne faudrait pas le faire. Mais la base, c'était qu'il fallait le faire.
Ouais, mais c'est plein d'arguments d'autorité comme ça. Le, ouais, mais il a le droit de se réinsérer. Enfin, si t'es de gauche, t'es pour la réinsertion. Tu fais, ah, mais bien
il
sûr.
A purgé
enfin,
sa peine.
Oh, mais bien sûr que je suis pour la réinsertion des ouvriers, enfin, des prisonniers.
Des ouvriers.
Ouais, l'absus. Pardon, lapsus.
Vous êtes en prison, les ouvriers, libérez-vous.
Hyper classique. Non, mais je veux dire, oui, réinsertion.
Attendez, réinsertion, est-ce que mais... ça veut dire la couve des inrocs?
Ouais, c'est voilà. Enfin, est-ce que pour... réinsertion, c'est célébration?
Ouais.
Je pose la question.
Oui, oui,
c'est clair. Pas tout à fait pareil. Mais...
En tout cas, ça sort à la rentrée.
Ouais, ça sort à la rentrée. Je vous tease pas, mais je fais une bonne, un bon retour sur l'affaire Daval. Je sais pas si vous vous rappelez.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, en quelques lignes, c'est un féminicide dans le cadre conjugal et lui, il a fait croire que c'était un meurtre de joggeuse. Et, et il est allé la mettre dans un bois, ouais, il a mis des chaussures de rando.
Ah, il s'est fait passer pour le fameux monstre.
Pour le fameux monstre. Et
du
donc,
bois,
l'affaire, elle est hyper intéressante sur la manière dont les médias ont réagi. Ils ont adhéré direct et la police, ils savaient direct. Enfin, le premier suspect dans un cas
c'est
de
lui.
Mort de femme, c'est le mari. Sauf qu'eux, ils l'ont gardé secret pour essayer de le, bah, de le choper, de le mettre sur écoute et tout. La première piste, c'est celle-là, mais médiatiquement. Parce qu'on est plein pétri de croyances absurdes, on va partir sur le meurtre de joggeuse direct,
oui.
parce que c'est plus facile à comprendre, c'est une fable qui va se résoudre, c'est, ça évite de se dire, tiens, bah, en fait, c'est tout le monde.
C'est très souvent le mari. Et en tout cas, je crois que ça se vérifie à peu près à chaque fois quand le mari lui-même prend la parole pour dire, elle nous a abandonnés.
Et ça, il faut qu'ils arrêtent de donner la parole aux maris qui sont suspects, en fait.
Et bah, oui.
Parce que le gars du au début de Chaumont, là, je ne me rappelle pas son nom, pareil, il avait fait des interviews dans les médias. Et ça... c'est grave parce que c'est du discours agresseur dans les médias qui n'est jamais repris derrière en disant bah en fait on s'est trompé c'était lui donc il va dire enfin c'est des choses qui vont circuler dans les représentations
on a l'image de lui
en victime
qui chiale à la télé et en fait ça s'ancre dans les têtes quoi
mais enfin, ouais puis bon, très
de manière
ça très crée pragmatique
de l'empathie,
hein, ça prépare les assises parce que ce sera des jurés populaires qui vont le juger et eux ils auront eu l'histoire du mari
le pauvre
qui chouine à la télé ou dans le journal que je ne citerai pas parce que moi je vais avoir un problème avec ce journal. Mais
Globalement, de toute façon, toutes les chaînes d'infos jouent plus ou moins le jeu du mari éploré. Hein.
Est-ce qu'on peut revenir juste vite fait, j'y pensais là, sur le titre de ton compte Instagram, Préparez-vous pour la bagarre, quand tu as créé ce compte, c'était direct ce titre dans ta tête, parce que du coup, il fait pas immédiatement référence à ce dont tu parles sur le compte, à savoir défaire le discours sexiste dans les médias, c'est principalement de ça dont tu parles sur ton compte, et du coup, c'est plus genre la conséquence.
Je voulais faire un festival féministe à l'époque, Et je l'avais appelé « Quand on arrive en ville ». Donc, c'est une chanson de Starmania. Parce que du coup, ça alliait la culture pop. Et aussi, ce festival, je voulais le faire vachement sur l'arrivée du printemps et le fait que c'était difficile quand on n'était pas hyper normé, de commencer à se mettre en short, des trucs comme ça. Et donc, quand on arrive en ville, ça faisait mouvement de personnes qui arrivent un peu... Bon, bref, le truc, c'est pas fait. Et ma page s'appelait « Quand on arrive en ville », elle était vide. Et j'ai dit « Bon, ben, c'était un peu le moment où tout le monde faisait des comptes militants. » Je fais « Toi, tu le ferais sur quoi ?» Je fais « Ah, ben, quand même, ouais. » Enfin, je me parle moi-même. Hein. « Quand même, Quanta, là, j'ai en travers de la gorge. » Et puis j'ai fait « Ouais, les médias. » Comme j'avais aussi milité à titre individuel sur, en interpellant les médias à chaque fois sur féminicide. Ça, je le fais depuis longtemps. J'ai dit « Vas-y, on peut faire ça. » Et du coup, ça n'avait plus aucun sens de l'appeler quand on arrive en ville. Et j'avais la flemme de chercher, donc j'ai pris les paroles qui suivaient dans Starmania. Et préparez-vous pour la bagarre.
Ah,
voilà.
Oui. Ah, j'avoue.
Ah, bah oui, autour.
Et moi, je suis.
Pas fait lien. Moi non plus.
Je suis fan de Starmania. Ça me faisait un truc culture pop. Et puis aussi, au début du compte, je mettais beaucoup de musique. J'ai fait beaucoup de quiz et j'ai rapporté beaucoup de paroles sexistes. Et pas forcément toujours... Enfin, il y a ce stéréotype que ce serait que dans le rap. Et là, j'ai monté un quiz. Ça fait deux fois qu'on le fait avec Flore de l'Impératrice. Flore Benguigui. Ça fait deux fois qu'on le fait. On en a fait un à Bruxelles et un sur Nova. Et en fait, on lit les paroles et on dit aux gens, c'est qui entre Léo Ferré, Booba, voilà, enfin, on brouille les pistes. Et à chaque fois, les gens sont bluffés. C'est hyper bien. Donc au début, je faisais ça. Donc voilà, ça avait ce petit lien musique. Puis après, c'est un peu parti sur les médias, mais j'adore le nom de cette page. Mais c'est Starmania.
Et c'est préparez-vous pour la bagarre, les garçons.
Ouais, puis c'était un peu.
Toi, tu le vois pour les garçons, parce que moi, je le vois plus pour elle et meuf. Regardez comment on nous traite. Il faut qu'on se relève les manches et qu'on aille se bagarrer.
Ah oui.
Enfin, mais tu sais, pas.
Du coup, tu veux dire
moi,
adresser
c'est les
filles, aux meufs.
Venez, on se prépare. Et ah toi, ouais. C'est attention les gars, on va vous bagarrer.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est les gars, préparez-vous pour aussi. La bagarre. Dans tous les cas, il y aura une bagarre. Quoi.
C'était un peu pour les meufs que j'ai dit parce que. Enfin bon, chacun l'interprète. Mais parce que je sentais le retour de bâton imminent, je sais pas pourquoi.
T'as du pif.
bon, c'est un peu facile de le deviner, mais. Après, il est pas.
De quoi
pas
que en... quand on parle, on prend un backlash ou.
Ouais, voilà. Puis c'était aussi. Alors ouais, si vous voulez tout savoir aussi, je me disais, préparez-vous pour la bagarre aussi pour les gens qui allaient suivre le compte et qui allaient voir l'ampleur des choses que je commençais moi-même à voir. Parce que quand j'ai commencé, c'était vachement sur des archives, des vieux papiers, la robe de Duflo, les commentaires graveleux de Balkany, des trucs comme ça. Mais je pensais pas qu'on aurait du contenu tous les jours.
Ouais.
Donc on a vachement appris ensemble et du coup je me suis dit c'est intéressant ce titre aussi pour dire si vous venez sur la page préparez-vous parce que vous allez voir que c'est tout le temps quoi.
Ouais. Mais c'est ça que j'allais demander aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas de moins en moins de contenu, mais j'ai l'impression que non. Parce alors, que du coup on a tendance à dire oh, wow, attends, dans les années 2000 on disait ça dans les médias, c'est chaud. Heureusement qu'on ne peut plus le dire maintenant, à la Star Academy, patati, patata, on sort plein d'exemples. Et en fait effectivement j'ai quand même l'impression que tu postes très régulièrement.
Et je poste tellement en dessous de ce que je reçois, il y a ça aussi. Et donc ça c'est des réflexions que j'ai de, je sais pas, peut-être passer la page en collectif ou un truc comme ça, parce que moi je ne peux plus le faire avec une asso qui est spécialiste de ça, je sais pas, parce que moi je reçois plus que jamais, mais je peux jamais tout mettre.
C'est trop.
Et évidemment, il y a des choses qui ont changé. On n'a plus trop de crimes passionnels ou drames familiales. Le féminicide est bien utilisé, mais bon, le coup du féminicide dans les buts de Chaumont où Le Parisien fait un article qui se termine par la parole de
un homme dévasté.
L'homme dévasté qui, s'il a démembré sa femme dans les buts de Chaumont, c'est parce que c'était un parc romantique. Ça me pose question très fortement. Alors c'est différent de ce qu'on faisait au début de la page, c'est pas exactement la même chose, mais là on parle donc de l'avocate qui a totalement le droit de parler au nom de son client dans les médias. C'est pas la question. La question c'est de terminer un article sans contradictoire sur ça. Et donc de laisser du discours comme ça romantiser un féminicide sans le reprendre. Parce que elle pourrait dire ça, puis derrière il y a une experte qui dit attention.
Oui.
Là, on est dans le cadre de la romantisation. Ça prépare peut-être un futur procès. On veut nous le faire passer pour un mec déchu, je sais pas quoi. Mais il n'y a jamais de...
Oui, c'est intéressant.
De contradictoire.
Je trouve ça intéressant ce que tu soulèves dans, en disant que parfois il va y avoir des procès avec donc un jury de gens publics qui auront potentiellement vu ces images et ça va laisser un impact. C'est-à-dire
mais
que oui, là, si on se le dit entre nous ou même si je le dis à des potes ou quoi, ils vont me dire bah c'est quand même un énorme mec dangereux. Enfin, c'est, je vais pas être de son côté. Oui, mais en fait, peut-être que toi, t'es infiniment persuadé que c'est un mec dangereux.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'inconscient.
Voilà.
Et de
mais bien sûr.
Exactement.
Et de l'empathie que ça, créer chez les gens qui seront peut-être ensuite ceux qui vont le juger. Et comme on a des preuves que la justice, elle a du mal à, bah, encore une fois, à accuser les hommes, notamment les hommes blancs privilégiés, si en plus on rajoute de l'empathie sur eux, là où j'imagine que quand c'est un homme noir ou arabe, par exemple, il va beaucoup moins y avoir ce type de discours en plus.
Bah oui, ça, ça crée les représentations jusqu'à l'inconscient du jury populaire qui va se dire parce que c'est. Un veuf effleuré qui est trop triste d'avoir tué sa femme accidentellement et en plus en même temps elle était relou parce que je l'ai lu dans un journal ou est-ce que je regarde les faits objectivement, c'est un mec qui a étranglé sa femme pendant 4 minutes et qui a essayé de se débarrasser du corps. Ça dépend vachement de la manière dont on raconte les violences aussi, la manière dont on les juge, donc, même moralement ou légalement.
Elles sont rarement racontées du point de vue des victimes.
Elles sont rarement factuelles. Hein.
Est-ce que tu veux passer au bol à question,
Oui, allons-y.
Ma chère Rose. Alors, si on vous dit la vérité, parce que nous, on vous cache rien en fait, on n'a pas les bols à question aujourd'hui, on a des questions dématérialisées. Donc,
la dernière fois, Camille, elle a oublié le jus et aujourd'hui, j'ai oublié les questions.
Eh, on va oublier notre tête un jour ou quoi ?
Attends.
Heureusement qu'elle est attachée à ton corps. Hein. Tu veux une question deep ou une question chill ?
Bon, chill, on commence.
Ok. Tu fais quoi quand t'arrives pas à t'endormir ?
Moi, je m'endors assez bien. Il y a peu de choses qui m'empêchent de dormir. Donc ça, c'est plutôt bien.
Même pas le sexisme, en fait.
Ben non, tu vois, je dors sur les...
Justement, ça me fatigue assez toute la journée.
Ben, je vais vous faire les confessions, alors. Un petit épisode de New York Section Criminelle.
Mais non.
Ça m'endort à chaque fois.
Si tu le trouves en replay, là.
Ouais.
Tu fais un petit replay.
Un site illégal.
Attends, non, mais regardes des trucs de crime. Des trucs de crime avant de t'endormir.
Ouais, un
ça
truc qui...
t'angoisse pas, ça t'apaise.
Ça vous apaise pas, le ting-ting et le générique.
Si, moi, je m'endors. Pendant un temps, je mettais, mais je préférais Unité Spéciale parce que c'est des histoires plus hardcore. Le banal cadavre m'intéressait peu, alors que dans Unité Spéciale,
oui,
je trouve qu'à chaque fois, il y avait un rebondissement beaucoup plus dark.
Ça peut être totalement New York Unité Spéciale aussi. Ouais, un petit truc comme ça.
Mais parce que l'émission.
Qui décroche le cerveau.
En fait,
normal,
est...
normal ce qu'elle raconte, les
mais
deux.
Parce
là.
En
normal.
Fait, elle est. Comment dire cette émission, j'allais dire, cette série.
Elle est racontée
elle
en ASMR.
Elle est endormissante. Elle enfin, je sais pas comment. Elle t'endort. Parce
ah
qu'il y a
pas.
Pas
moi, pas
ah
moi
ouais,
du tout.
C'est impossible.
Eh ben, moi, je trouve que déjà, il y a un souvenir de quand j'étais plus jeune, les samedis soirs, en famille,
ou
je sais pas quoi. Et on s'endormait vraiment vers 23h30 avec ce truc. Et je te rejoins,
c'est noir.
Écrit, c'est facile en fait à la résolution, même s'il peut y avoir des rebondissements, notamment New York Unité Spéciale, post-MeToo et avec l'actrice là, Olivia Benson qui est devenue la productrice de la série, c'est devenu carrément woke et féministe, hein, vraiment, j'ai regardé toutes les dernières saisons là, ça parle vraiment sérieusement des violences, il n'y a pas... une saison où elle ne défonce pas un de ses collègues sur la question, d'ailleurs c'est les meilleurs épisodes. Et donc, je sais pas, il y a un truc, ce serait le monde comme on aimerait le voir. Bon, je sais bien que les thèmes sont un peu trash, mais enfin, je sais pas, moi j'ai développé une telle résistance. Donc, limite,
ça
me détend. Tu vois, je fais pas une méditation guidée, je fais un New York Unité Spéciale. Je sais pas, culture pop, ça me rassure, c'est des souvenirs. Évidemment, ils sont en VF.
Oui, voilà. Ah bah faut pas faire l'effort.
Voilà, pas
faut
d'effort,
pas qu'il y ait
de réflexion,
sûr,
résolution facile, et puis ben, si j'ai pas la fin, c'est pas grave, tu vois. Alors que un vrai, tu as un vrai épisode de trucs que j'aime bien, je m'endors pas. Mais là, c'est un truc, je sais pas. Il y a des gens qui disent qu'ils ont ça avec Friends ou des trucs un peu 100%. Doudou. C'est un peu New York Unité Spéciale.
Ah ouais.
Ça en dit peut-être long sur moi, mais
ouais, moi
c'est mon doudou.
C'est vraiment Team Friends pour m'endormir facilement.
Mais donc quoi, vous êtes dans votre lit, vous arrivez pas à dormir, vous rouvrez votre ordinateur, vous remettez un épisode, c'est ça que vous faites comme
devant,
activité.
Ouais,
et tu t'endors devant.
Là, c'est
intime.
Pour ma part, faut vraiment que j'arrive pas à m'endormir, ce qui est très très rare parce que je rejoins.
Mais
si tu t'endors facilement que moi, enfin moi je m'endors tous les soirs très facilement. Je bénis je ne sais qui chaque jour que je ne sais qui fait pour ce truc de pouvoir s'endormir facilement. Je connais pas trop l'insomnie, je m'endors très bien. C'est un soir comme ça, de temps en temps, où je mets 100 ans à m'endormir. C'est une plaisanterie. Et souvent, le lendemain, ma mère me dit « Alors, ça a été avec la pleine lune ?» Je vous jure.
Ah,
je dors pas les soirs de pleine lune, apparemment.
Non, moi j'ai beaucoup de mal à m'endormir. C'est pas une activité que j'apprécie. J'attends avec impatience la petite invention de « On nous mettra un petit interrupteur et je pourrais faire clic, hop, et écraser. »
Je l'ai un peu, moi.
Ça me, je vous envie à un point. Vous n'avez pas idée, je perds tellement de temps à pas m'endormir, mais je suis incapable de faire une activité. C'est-à-dire que je peux passer... Mais vraiment, ça m'est déjà arrivé, on va croire que j'exagère, mais 3-4 heures dans mon lit, les yeux fermés, à dire « faut que je m'endorme enfin, ».
Oui,
j'arrive
et t'es pas du genre à lâcher la grappe de ce truc-là et dire « bon, allez, je fais un truc ».
Mais non, parce que je suis quand même en légère somnolence.
Ouais, c'est horrible.
Et donc, pendant longtemps, je me prenais la tête avec ça en me disant « mais putain, mais au moins, je devrais refaire une activité et tout ». Et maintenant, en fait, je me laisse tranquille en me disant en fait, au moins je me repose. C'est-à-dire, au moins je suis allongée, les yeux fermés.
Ouais. Et bah ouais, mais. Pas faire la sieste, fait, mais au moins tu te reposes. Et fait, ah bah d'accord.
Voilà, c'est peut-être une phrase de Daron, parce que je crois que mon père disait ça aussi.
C'est pas grave, au moins tu te reposes.
Est-ce que tu veux une autre question? Deep ou chill?
Ouais, deep du coup.
Ton plus gros complexe d'adolescente?
Je n'en ai jamais eu. Possible bah, alors, en tant que femme des années qui a grandi dans les années 2000.
Moi j'étais un peu. Pas une freak dans le sens où on se moquait de moi. J'étais un peu le fantôme de mon école, donc mon complexe, c'est que je sortais pas, ça avait tout de suite l'air moyen, mais j'avais pas beaucoup d'amis, et je voyais mes cousines ou même mes sœurs aller boire des verres en ville et tout, et moi j'avais pas de vie sociale parce que j'avais des problèmes sociaux à l'époque. Donc je dirais que c'est ça, c'était même pas physique, ou bon, je devais en avoir, mais là ce qui me vient en premier...
C'était un truc de sociabilité avec les autres.
Ouais, j'arrivais pas trop, ouais.
Et tu l'as modifié, ou t'as accepté d'être assez introvertie?
Non, j'étais assez dans l'affirmation de ce que j'étais quand même, mais alors moi là, c'est ce qui m'a sauvée, c'est le dessin animé Daria.
Si Daria, oui.
Oh oui, c'est quoi ce truc déjà? Une meuf avec des lunettes?
Ouais, et toujours comme ça,
hyper flegmatique, introverti, cynique et tout. Et ça passait sur MTV. Je me rappelle quand je l'ai vu, parce qu'on avait le câble. Et c'était en français.
Tu t'es dit, c'est moi.
J'ai dit, ouais, mais en fait, déjà, je me suis hyper identifiée. En plus, elle est drôle. Elle avait une vie sociale, mais plus mesurée que sa sœur qui était pom-pom girl. Enfin, je sais pas, je me suis dit, bon, je suis plus comme ça. Et puis, voilà.
Mais comme quoi, la représentation.
Ben oui, c'est hyper important. Et elle est géniale, cette série, en plus.
Oui, c'est vrai.
Il y a plein d'afroféministes qui en ont parlé récemment parce qu'il y a un personnage dans la série qui est vraiment hyper bien écrit. Alors, il est secondaire, malheureusement. D'une copine de sa classe et qui est vraiment hyper woke avant l'heure, vraiment très bien. Enfin, sur le question du racisme, appropriation culturelle et tout. C'est marrant parce qu'une cousine me disait ça, tu donnais pas du tout l'impression d'en souffrir, c'était plutôt je m'en fous des autres et tout. Mais moi, intérieurement, je me trouvais un peu solitaire.
Un peu trop seule.
Ouais, je voulais faire des trucs comme les autres. Mais en fait, après, j'ai essayé d'aller en boîte et je déteste ça. Maintenant, je le dis, je m'en fous, mais...
C'est l'âge. Tu te reconnais un peu.
En fait, j'étais introvertie, mais j'avais pas les mots pour comprendre. Du coup, je me trouvais bizarre, voilà. Je dirais que c'était ça.
Oui, est-ce que c'est forcément être introvertie que de pas aimer aller en boîte, ou juste ça peut être une question de goût, mais c'est tellement tous les ados, ils adorent ça, que du coup, ça fait bizarre de dire « moi, j'aime pas les boîtes ».
Ouais, moi en fait, tu retournes toujours les trucs contre toi, c'est ça qui est pénible. Si t'as pas de représentation, tu dis, je suis inapte, je suis pas comme les autres.
Comme tout le monde adore faire ça, c'est improbable que moi.
Mais en fait, tout le monde n'adore pas, finalement.
En plus, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, parmi tous les gens qui vont
en tout le monde n'adore pas,
dans des bars,
y a plein de gens qui n'y vont pas.
À l'adolescence. Donc,
tu veux faire du shopping le samedi, un enfer pour moi. Les festivals, j'ai bossé dans la musique, j'y suis allée longtemps, mais j'aime pas, en fait. Il a fallu l'âge pour dire, mais je déteste ça. J'adore la musique, j'adore les concerts en salle. De plus en plus assis, voilà.
Allez,
je le dis,
vous êtes
avec du bon son et les festivals, excusez-moi, mais j'en ai fait sous la flotte, j'ai fait les campings et tout. Et ben en fait, j'aime pas, mais ça, je me suis forcée à en faire. J'étais comme ça avec mes amis, c'était vraiment génial, alors que je détestais. Et j'ai envie de dire là, il y a plein de trucs qu'on fait et puis on les tourne contre soi en disant ah, mais t'es bizarre.
Mais parce que justement, comme mais... tout le monde aime, on se dit pas, ouais. on se dit qu'on doit aimer. Alors bah qu'en oui, fait, ne pas aimer, c'est aussi une catégorie de gens qui bah n'aiment oui, pas exactement. Forcément ça. Effectivement,
sans que ce soit négatif, c'est juste un goût aussi.
Bah ouais, mais il y a des normes d'âge et tout. Et puis, il y a pas beaucoup de nuances quand on est plus jeune.
Et aujourd'hui, moi, à chaque fois que je dis que quand je fais des concerts, je veux absolument être dans un gradin assise, on se moque beaucoup de moi. Après, je m'en fous parce que ça y est, je suis en mode, de toute façon, je suis une vieille dame depuis toujours. Donc
c'est ça qui est cool, passer 25, ouais. passer 25, 30 ans, ouais, grave, aller dans les gradins ensemble.
Franchement, je ne changerais pas mon affirmation de maintenant avec la vingtaine parce que bah, je suis trop contente de dire ah bah, non, sûrement pas.
Ouais, j'aime pas. Non, merci.
Moi, j'adore avoir compris tout ça. Et là, je ne sais pas, je vais faire deux apéros de suite, tu vois, dans une semaine. Et on me repropose un truc, je fais ah non, là, rechargement de batterie, je ne peux pas encaisser trois sorties de suite. Mm-hmm. Et j'arrive à le dire maintenant. Et bon, il faut des amis ouverts et un peu woke sur ces questions, mais je suis trop contente d'arriver à le faire.
Je le fais beaucoup avec les autres aussi, parce que comme j'ai pas tout le temps envie de sortir, moi je supporte pas... là, par exemple, depuis que je suis rentrée de vacances du Pérou, forcément j'étais deux semaines en vacances, donc dès que je rentre, faut se remettre un peu dans le bain, et j'ai fait des trucs quasiment tous les jours, et j'aime pas ça. Moi, depuis toujours, si mon planning est plein sur toute la semaine, ça, c'est horrible pour moi. Il y a des gens, c'est l'inverse. Il faut qu'ils aient des choses. Moi, il faut que j'ai des moments où j'ai rien.
On est vraiment similaires, parce que là, moi, je rentre d'un week-end de 4 jours à Copenhague, et j'ai dit à ma sœur, avec qui j'étais pendant les 4 jours, que j'ai besoin d'un jour de vacances pour me remettre de mes 4 jours de vacances.
Et c'est un tel besoin que j'essaie de le projeter sur mes amis, notamment mes copines les plus proches, qui ont du mal à dire non. C'est un truc sociétal qui fait qu'en tant que femme, je crois qu'on a encore plus du mal à dire non, à refuser des projets ou même des sorties. Et très souvent, quand on est censé se voir, je dis hey, mais si t'es fatiguée, s'il y a moindre truc, celles qui ont des enfants, celles qui ont des problèmes de santé ou quoi, je leur dis tu m'annules au dernier moment, je m'en fous. Enfin, tranquille en fait. Déjà parce que moi, au final, je vais rien faire.
Ça m'arrange aussi.
Oui, non, c'est ça. Il y a toujours une arrière-pensée. Tu sais, t'hésites pas à annuler. Hein.
On arrive à la fin du podcast et il nous reste un petit peu de temps pour qu'on se fasse des petites. Le fameux top flop culture.
Le fameux. Le genre,
on l'attend. On est célèbre, ok. Ouais, j'ai décidé aujourd'hui qu'on était célèbre.
Ah ouais, vraiment, le fameux accroche-tige.
La fameuse chronique que tout le monde attend.
Ouais, grave. Alors, je sais pas, moi j'ai pas d'idée.
Moi je vais commencer parce que tout le long du podcast, tous les sujets qu'on a abordés, je viens de lire le livre de Ils abusent grave, qui est un compte Insta que j'aime beaucoup suivre, qui décrypte pas mal de. Et tous les sujets qu'on a abordés se retrouvent dans la BD. Donc, putain, je suis hyper floue là. C'est un compte Instagram qui s'appelle Ils abusent grave, qui vient d'être transformé en BD.
Je l'ai vu passer.
Et je l'ai
pour
reçu.
Moi c'est clair. Mais...
On me l'a envoyé gracieusement et du coup je suis trop contente et je l'ai lu hier. Et en fait, c'est fou parce que en le lisant, je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça m'a déjà fait évoluer sur ma pensée, parce que là, de tous les sujets qu'on a abordés, c'est-à-dire qu'il y a l'empathie pour les agresseurs, qui est traitée à un moment, parce que du coup, il y a plein de sujets, et comme c'est sous forme de BD, c'est très ludique,
c'est
drôle.
C'est ironique, non ?
Non, c'est éducatif, quoi. C'est éducatif et drôle. C'est plein de thématiques que nous, nous on vient de parler là, et qui, du coup, sont retranscrits sous forme de BD avec à chaque fois des chiffres, des théories. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, elle s'amuse à dire que la majorité des femmes connues dans l'histoire, pour le peu qu'il y en a eu, hein, vu qu'elles ont toutes été invisibilisées, sont très souvent sexualisées, notamment sur les tableaux. Elle fait référence notamment à Cléopâtre. Et pour un peu se venger régulièrement, un peu au pif, dans le livre, il y a des tableaux de genre Platon, nu, un peu sexy et tout. Et du coup, c'est assez marrant de voir cette petite... effectivement, cette petite... ce petit trait d'humour. Non, mais voilà.
Non, mais tout ce qu'on aime, quoi. Si vous nous suivez, là, nous Camille, Justine et Rose Lamy,
c'est ça. Bon, après, en vrai, ça fait complètement mouche, et c'est comme ça existe déjà sur Insta. Si vous suivez le compte Insta, bah ça peut faire des redites, mais pour faire un cadeau, parce que c'est un bon moyen. Les BD, moi c'est vrai que je suis plus livre, mais je comprends que ce soit vachement plus accessible pour plein de gens. Donc pour moi, c'est quelque chose à vraiment à avoir, parce que ça met le pied à l'étrier de pas mal de thématiques, et notamment plein de celles qu'on vient d'aborder là dans ce podcast.
Mais écoute, tu me l'as vendu, hein.
Ouais, c'est
vraiment. Ouais,
et tu vas me la prêter, parce que moi
je
l'ai pas reçu.
Je vais te la prêter. C'est assez gros, mais c'est de la BD, donc vraiment, je l'ai lu hier en une heure,
c'est
je pense.
J'adore.
Voilà. Et c'est une bonne manière de donner de l'éducation, de la pédagogie à des gens qui ont pas envie de lire des essais, ce que je peux comprendre parce que ça peut être difficile à lire. Voilà. Et c'est tout. À vous.
Moi, j'ai trouvé du coup, mais c'est un peu critique. Vous êtes toujours en train de râler, de toute façon, celle-là.
Ah, yes.
Je sais pas si vous avez regardé la dernière saison de Black Mirror.
Oui, et j'ai regardé hier les deux premiers épisodes.
Et donc, je fais un gros spoiler alerte.
Ouais, vas-y. on s'en fout.
Ouais, les gens, ils l'auront vu d'ici là.
Bah tant pis, si vous l'avez pas vu, vous zappez les deux prochaines minutes.
Ouais, je vais zapper les prochaines minutes. Moi, j'ai pas tout regardé, mais j'ai fait les trois premiers. Et
qui sont censés être les trois meilleurs selon les gens qui ont vu tous les épisodes.
Sur deux, la résolution scénaristique, c'est la mort des héroïnes. Mmh. Et je trouve que c'est feignant et décevant d'un programme comme ça. Mmh. Parce que notamment dans les deux épisodes dont je parle, sans en parler plus.
C'est deux et trois du coup ?
Ouais, ouais. Okay. Ça pouvait complètement... Enfin, c'est inutile. En fait, je les ai re-regardés et je me disais, mais dans les deux cas, ça servait à rien.
Le 2, c'est vraiment inutile.
Tu vois ? Sert à rien. Eh ben,
je vais regarder le 3 quand même.
Le 3, de toute façon, ça te spoil sans te spoiler parce que c'est quand même secondaire, mais ça arrive quand même. Ouais, tu vois et donc...
ça sort de nulle part.
J'étais super déçue. Voilà. C'est un programme exigeant quand même qui pose plein de questions. Et quand même, on se retrouve avec les vieilles ficelles. Tu vois, on parlait des New York Section Criminelle. Ben, 99% des histoires, c'est un féminicide. Hein, donc, je m'attendais à mieux scénaristiquement pour cette série que j'aimais bien.
Et après, tu ne penses pas que c'est, notamment dans le 2, ce serait pas, peut-être je suis trop sympa, mais ce ne serait pas une forme de dénonciation que ce soit la meuf noire qui meurt à la fin du truc.
Bah, ce n'est pas dénoncé, je trouve. Hein.
Ouais, c'est pas du coup, tellement... à part toi qui peux te faire cette lecture.
Oui, voilà. Moi, je me suis fait cette lecture, mais du coup, ce serait trop facile. Quoi.
Désolée.
Petit coup de gueule.
Désolée pour le spoil. En juillet, il faudrait les avoir vus quand même. Hein.
Bah moi, dans une note plus mimi, je voulais recommander le dernier Pixar, Disney Pixar. Je sais plus. Ils se sont liés les deux, non ? Je sais pas. qui s'appelle Élémentaire. Trop cool. Voilà. Trop mignon. Petite histoire de love entre deux éléments qui sont pas les mêmes, l'eau et le feu, avec les voix françaises de Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste, que j'apprécie beaucoup les deux. Du coup, les voix très sympas.
Je viens de grimacer sur Vincent Lacoste parce que déjà que je l'aime pas en comédien, mais n'avoir que sa voix iconique comme ça, je crois que j'ai envie de me flinguer.
Je trouve ça trop drôle.
Et, c'est totalement gratuit.
Ouais. Ouais, désolé, balle perdue pour Vincent.
Aïe. Non, très sympa, un bon moment. Alors, ça m'a fait rire parce que j'avais lu, comme à chaque nouvelle sortie Disney-Pixar depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc un peu woke
un
dedans.
Message derrière.
Et du coup, là, non, enfin, un élément woke. Et là, j'avais vu qu'il était interdit en Russie, évidemment, comme
c'est
souvent,
LGBT,
parce que,
ça.
Voilà, parce qu'il y a un couple de lesbiennes.
Mais c'est des éléments...
Hein. Oui, mais peu importe. Oui, il y a des genres. Enfin,
ah,
genre,
ils sont genrés.
Oui, ils sont genrés. Il y a des meufs et des mecs, bien sûr. Et du coup, le couple, il apparaît, mais genre une seconde à table, il y a vraiment deux meufs qui se présentent en mode « Salut, c'est moi et ma copine ». C'est tout, genre, je me suis dit « Putain,
ils sont fragiles. »
Le degré de fragilité de Poutine et sa bande, quand même, on est sur quelque chose, quand même. Hein. Vraiment, ça les a heurtés, quoi. Je me suis dit « Putain, en voyant ça, je me suis dit « Oh non,
dis-moi,
elles vont réapparaître, quand même, je sais pas. Elles vont baiser, peut-être, toujours,
toujours
plus. Non, mais vraiment, la fragilité, quoi. Non, mais sinon, il est trop doux, trop mignon. J'ai vraiment passé un très bon moment, voilà, je vous le recommande si vous avez besoin de douceur et de légèreté.
C'est drôle.
Ouais, c'est gollerie. Ouais, c'est un peu gollerie, ouais. Allez, mais je crois que j'étais presque plus émue par le... Il y a eu un court-métrage juste avant du vieux papy de là-haut, là, vous voyez.
Ah, oui,
le film le plus triste de la Terre avec Roxy Rookie. Là-haut, du coup, le grand-père, il a donc perdu sa femme, machin. Bref, vous avez vu là-haut, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Et du coup, il y a un court-métrage de juste lui qui va avoir un date.
Oh là là.
Oh là là, mon Dieu.
C'est d'un touchant.
C'est systématiquement diffusé avant le film.
Oui. Oh.
Mais vous savez,
je sais pas, je pense, j'espère.
C'est sans doute un violeur, ce vieux papy. Oh.
Un bon père de famille.
Et voilà.
Et allez, c'est parti.
Bah, à son époque.
Non, mais
je plaisante, écoute, on peut pas faire des blagues sur le vieux de là-haut.
On peut pas faire des blagues sur les violeurs.
Le viol conjugal, il a duré jusqu'à. Bon, bref, on arrête. Bon, en tout cas, on va pas lui ouvrir la porte de la chambre à coucher.
C'est ça.
Mais en tout cas, ce court-métrage, trop mimi.
Voilà, voilà.
Eh bien, merci Rose d'être venue partager ce moment avec nous.
Oui.
Donc, Rose Lamy, vous la retrouvez sur son compte Insta. Préparez-vous pour la bagarre. T'as un compte perso sur lequel tu veux qu'on te suive ou pas plus
Oui,
que
j'en ai un, ouais. Rose Lamy. Qui est plus perso du tout. Donc, mais j'en ai un deuxième, Rose Lamy.
Voilà, vous pouvez la suivre. Vous pouvez évidemment précommander le livre En bon père de famille. Justine va éternuer.
Ah, mes souhaits.
À tes souhaits.
Qu'est-ce que tu souhaites Ah, parfait comme fin de podcast, c'est ouais. Et puis nous, on se retrouve bientôt, parce que je crois que c'est le dernier épisode avant des petites vacances.
Oui, les amis. Très bon mois d'août à toutes et à tous. On se retrouve à la rentrée avec notamment la sortie du prochain livre de Rose.
Oui, le 6.
Et nous, bah, à la rentrée avec plein de nouvelles aventures. Ouais.
À bientôt.
Merci.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.